Jacques Lacan, séminaire L'envers de la psychanalyse, le 21 janvier 1970.
Le niveau de structure, je me passe cette année de l'article. Couple, tournis. Les trois hommes, respectivement dénommés, je le rappelle pour ceux qui viennent ici, moralisme, dénommés un discours humain, celui de l'hystérique. Je l'ai dit au milieu aujourd'hui. Enfin, qui vient ici nous intéresse à un haut degré, puisqu'il s'agit d'une cour située comme universitaire. Ce discours analytique, ce qui a d'appelé le décalage en quart de cercle, dont se structurent les trois autres, cela ne veut pas dire qu'il les résout. Permettent de passer à l'envers ça ne résout rien. L'envers n'explique nul endroit. C'est un rapport de trace, de texte. De tissu, si vous voulez. Il n'en reste pas moins que ce tissu a un relief. Qu'il attrape quelque chose, certes pas tout, bien sûr, puisque de ce mot qui n'a d'existence que de langage. Le langage montre la limite, précisément. Que même au monde du discours, rien n'est tout, comme je dis, mieux, si vous voulez, que tout comme tel se réfute. Lui-même de pouvoir être réduit dans son emploi. Ceci peut nous introduire à ce qui aujourd'hui sera l'objet. Une approche tout à fait essentiel à cette démonstration de ce que c'est qu'un enfer. Enfer à sonner avec vérité. En vérité, il y a quelque chose qui mérite d'être appuyé de ce détail. Il n'est pas un mot aisé à manier hors de l'âme, en logique propositionnelle, où l'on en fait une valeur. Une valeur réduite à l'inscription au maniement d'un symbole, ordinairement le grand V, son initial. Nous verrons cet usage est très particulièrement dépourvu d'espoir. Bien ce qu'il a salué. Néanmoins, partout ailleurs, nommément chez les analystes, je dois le dire, et pour cause, les analystes femmes, ils provoquent un curieux frémissement. L'ordre de celui qui les pousse depuis quelque temps à confondre la vérité analytique avec la révolution. J'ai déjà dit l'ambiguïté de ce terme. Et aussi bien de vouloir dire révolution dans l'emploi qu'il y a dans la mécanique céleste, à savoir retour au détail. C'est bien par certains côtés ce que le discours analytique, comme je l'ai dit tout d'abord, peut accomplir au regard de trois autres ordres, situant trois autres structures. C'est bien pourquoi c'est au pas. Puisque ce n'est pas par hasard que moins enfermés que leurs partenaires dans ce cycle des discours. L'homme, le mâle, le viril, tel que nous le connaissons, est une création de discours. Bien tout au moins de ce qui s'en analyse ne peut se définir autrement. Bien sûr, on ne peut en dire autant de la femme. Néanmoins, ou bien dialogue n'est possible qu'à se situer au niveau du discours. Pourquoi, avant de frémir, la femme manie la vertu révolutionnaire de l'analyse pourrait se dire que bien plus que l'homme, elle a à bénéficier de ce que nous appellerons une certaine culture du discours. Ce n'est pas qu'elle n'y a pas de dogme, bien au contraire. Quand elle s'en anime, elle devient dans ce cycle un guide éminent. C'est ce qui définit l'hystérique. Et c'est pourquoi, au tableau, rompant l'ordre de ce que j'y écris d'habitude, je l'y ai placé au centre. L'éclair, pourtant, ce n'est pas par hasard le mot vérité provoque chez elle ce particulier prémisse. Seulement, la vérité n'est pas, même dans notre contexte, qu'un accès facile. Comme certains oiseaux de ceux dont on parlait quand j'étais petit. Comme certains oiseaux, ça ne s'attrape pas qu'on lui mette du sel sur la queue. Et bien sûr, ce n'est pas facile. Mon premier livre de lecture avait pour premier texte une histoire qui s'intitulait c'est ça qu'on y parlait, histoire d'une moitié de poulet. Pas un oiseau plus facile à attraper que les autres, par la condition de lui mettre sel sur la tête. Ce que j'enseigne après, depuis, c'est un quelque chose que la psychanalyse pourrait s'intituler Histoire d'une moitié de sujet. Où est le vrai du rapport entre cette histoire d'une moitié poulet et l'histoire d'une moitié sujet? On peut le prendre sous deux angles. L'histoire. Ma première lecture a déterminé le développement de ma pensée, comme on dirait dans une thèse universitaire. Depuis la structure, le devoir histoire de la moitié de poulet pouvait bien présenter. Pour l'auteur qui l'avait écrite, quelque chose se reflétait. Je ne sais quel pressentiment, non pas de la psychanalyse, comme on dit dans le pays d'Antarctique, mais de ce qu'il en est du sujet. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y avait aussi une image. Sur l'image, la moitié de poulet était le profil qui provoquait. On ne voyait pas l'eau, la coupe. Probablement puisque ça pas le droit, sans cœur, et pas sans foi. Dans les deux sens du mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la vérité est cachée. Mais elle est peut-être qu'absente. Ça arrangerait tout, si c'était ça. On n'aurait qu'à bien savoir tout ce qu'il y a à savoir. Et après tout, qu'on ne voit pas. Quand on dit quelque chose, il n'y a pas besoin d'ajouter que c'est vrai. Autour de là tourne toute une problématique du jugement. Vous savez bien que M. Frege pose l'assertion sous la forme d'un trait horizontal et la distingue de ce qu'il en est quand on affirme que c'est vrai. Y mettre un trait vertical, l'extrémité est gauche. Vient alors l'affirmation. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Ben, mon Dieu, c'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit, c'est la phrase. La phrase, il n'y a pas moyen de la faire supporter d'autre chose que du signifiant entendu. Il ne concerne pas l'objet, à moins que, comme un logicien, dont j'avancerai tout à l'heure l'extrémisme, ne posiez qu'il n'y a d'objet. C'est l'objet que nous en tenons à ceci que signifie. Concerne pas l'objet, mais le sens. Comme sujet de la phrase, il n'y a que le sens. D'où cette dialectique où nous sommes partis, que nous appelons le pas et le sens, avec toute l'ambiguïté du mot pas, celui qui commence au non-sens forgé par le cerveau, le verre est un bout, qui peut très bien avoir un sens. Il s'agit d'un pot avec des boules vertes, par exemple, des boules rouges. Je pense ce qui nous emmène. Parce que ce qu'il en est de l'être tient au sens et que ce qui a le plus d'être, eh bien, dans cette voie, c'est dans cette voie, en tout cas, qu'on a franchi ce pas de sens, ce penser, que ce qui a le plus d'être ne peut pas ne pas exister. Le sens, si je puis dire, à charge d'être, n'aime pas d'autres sens. Effectivement, on s'est aperçu depuis un certain temps que ça ne suffit pas à faire le poids. Le poids, justement, de l'existence. Chose curieuse, d'innocence, ça le fait. Ça prend à l'estomac. Et particulièrement, c'est là, le pas franchi par preuve, savoir montrer que c'est ce qu'a d'exemplaire le mot d'esprit. Le mot sans queue ni tête, ça ne rend pas plus facile de lui mettre du sel sur la queue, justement. La vérité s'envole. La vérité s'envole au moment même où vous ne vouliez plus la saisir. D'ailleurs, puisqu'elle n'avait pas que comment auriez-vous pu. Sidération et lumière. Comme vous vous en souvenez, une petite histoire assez plate d'ailleurs, de réplique sur le beau d'or, de suffire à le réveiller. C'est vous qui dort debout. On voit alors qu'il est, je puis dire, tordu. Entre le dur désir de durer des larmes et le désir de dormir, qui est bien la plus grande énigme. Quand on semble s'en aviser, que Freud avance dans le mécanisme du rêve, car ne l'oublions pas, Gush zu schlafen, dit-il. Ne pas dire schlaf bedürfnis, besoin de dormir, c'est pas ça qu'il s'agit. C'est le Gunstuflaten qui détermine l'opération du rêve. Il est curieux. Il complète. Cette indication de ce type qu'un rêve qui réveille c'est juste au moment où le rêve pourrait lâcher la vérité. Dans le réel, pour être plus exact, dans la réalité. Tout cela, ça frappe. Ça frappe un certain manque de sens. Comme le naturel revient au galop. galotait même. À peine elle traverse notre champ, qu'elle est déjà partie de notre côté. L'absence dont je parlais tout à l'heure, elle est en français, produit une curieuse contamination. Si vous prenez le sang, S-A-N-S, sans prévenir du latin signé, c'est bien peu probable, puisque sa forme première était quelque chose comme S-E-N-Z. Nous apercevons que l'absentia à l'ablatif, employé dans les textes juridiques, et d'où provient cet S qui le sent, S-A-N-S, le terme. Sans queue ni tête, nous l'avons ce petit mot déjà produit depuis le début de ce que nous dénonçons aujourd'hui. Et alors quoi? C'est puissant. Est-ce qu'il y a puissance? N'est-ce pas d'une puissance qu'il s'agit? Tout autre que de cette impuissance d'une virtualité imaginaire. Il est puissant que d'être trompé. Mais bien plutôt sur ce qu'il y a d'être dans le sens qui est à prendre autrement que d'être sens platine. Mais bien plutôt de ce qui, à l'être, lui échappe, comme il arrive dans le mot, justement dit d'esprit. Comme aussi bien nous le savons, là se passe toujours dans l'acte. L'acte, quel qu'il soit, c'est ce qui lui échappe qui est important. C'est bien aussi ne pas franchir par l'analyse dans l'introduction de l'acte manqué comme tel. Après tout, le seul, nous sachions qu'à coup sûr, c'est toujours un acte réussi. Il y a là autour tout un jeu, jeu de l'hypothèse. Étrangement d'elle-même. vous êtes-vous aperçu que homeliness en anglais, ça veut dire sans façon. C'est bien pourtant le même mot que Heiligkeit. Ça n'a pas tout à fait le même accent. C'est bien pour voir aussi Philos se traduit en anglais par meaningless, c'est-à-dire pas le même mot. Qui pour traduire une signe nous donnera nonsense. Fait qu'un fait que l'antiquité des racines en anglais prête à de singuliers évitements. Par contre, l'anglais, curieusement, et d'une façon quasi unique, appellera without, le sang, avec, est en dehors. La vérité semble bien en effet nous être étrangère. J'entends notre propre vérité. Elle est avec nous, sans doute. Mais sans qu'elle nous concerne. Tellement qu'on veut bien dire. Tout ce qu'on peut dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas sans elle. Ceci en somme qu'à être à sa portée, eh bien nous nous en passerions bien. Si nous passons du sang au passant et de là au sang passant. Peut être impératif sur nous. Et aller à l'auteur qui a articulé le plus fortement ce qui reste de ce qui consiste comme entreprise à cause qu'il n'y a de vérité qu'inscrite en quelques propositions. À essayer d'articuler ce qui du savoir comme tel. Le savoir étant constitué d'un fondement de proposition, ce qui du savoir en toute rigueur de fonctionner comme vérité. Ce qui, de quoi que ce soit, qui se propose, peut être dit vrai et soutenu comme tel. Il s'agit d'un nommé Wittgenstein. Puis je dis, facile à lire. Sûrement. Effectivement. Si vous savez vous contenter de vous déplacer dans un monde qui est strictement celui d'une cogitation, sans y chercher aucun fruit, ce qui est votre mauvaise habitude. Venez beaucoup à cueillir des pommes sous un pommier. Même à les ramasser par terre. Ce vaut mieux pour vous que de ne pas ramasser le temps. L'habitation un certain temps. Sous un pommier dans les ramures peuvent suffire à capter très étroitement votre attention pour que vous y obligiez. Il y aura tout de même ceci de caractéristique. Que vous ne pourrez rien en tirer. Si ce n'est l'affirmation que rien d'autre ne peut être dit vrai que la conformité à une structure que je ne situerai même pas à me mettre un instant hors de l'ombre de ce pommier comme logique, non, comme propre nom, pour faire la firme grammaticale, laquelle constitue, pour cet auteur, ce qu'il identifie au nom. La structure grammaticale, voilà ce qui est le mot. Il n'y a ensemble de vrai qu'une proposition composée comprenant la totalité des faits qui constituent le mot. Si nous choisissons dans l'ensemble à y introduire l'élément de négation qui permet de l'articuler, nous aurons bien sûr tout un ensemble de règles à dégager qui constitue une logique. Mais l'ensemble est, nous dit-il, tautologique. C'est-à-dire aussi bête que ceci. Que quoi que ce soit, vous énonciez, c'est ou bien vrai ou bien faux. Et qu'énoncer ceci, c'est ou bien vrai ou bien faux. C'est forcément vrai, mais aussi que ceci annule le sens de ce que je vous ai dit, conclut-il, à la proposition 6-0-0-5-2-3-4, puisqu'il les numérote, tout ce que je viens d'énoncer ici est à proprement parler une signe, c'est-à-dire annule le sens. Rien ne peut dire qu'il ne soit tautologique. Ce dont il s'agit, après être passé dans la longue circulation d'énoncés dont je vous fais croire, que chacun est extrêmement attachant, c'est que le lecteur surmonter tout ce qui vient de se dire pour conclure qu'il n'y a rien d'autre de visible, mais que tout ce qui peut dire n'est que non. Peut-être un peu vite pour vous résumer le tractus logico-philosophicus de Wittgenstein. Ajoute. Remarque seulement que rien ne peut dire que de vain n'est vrai qu'à la condition de partir sur l'idée, sur la démarche qui est celle de Wittgenstein, que le vrai est un attribut de la proposition brute. J'appelle blagueur, on mettra entre guillemets chez un quoi, par exemple. C'est-à-dire, l'on distingue l'énoncé de l'énonciation. Ce qui est une opération que, pour avoir construit mon graphe, précisément sur son fondement, je n'hésite pas pourtant à déclarer abstrait. Car il est clair qu'il est soutenable, comme c'est la position de Wittgenstein, de dire qu'il n'y a à ajouter nul signe d'affirmation à ce qui est assertion pure et simple. L'assertion s'annonce comme vérité. Comment dès lors sortir de ce qu'il en est les conclusions de Wittgenstein, non à le suivre, la même où il est entraîné, de savoir vers la proposition élémentaire, dont la notation comme vraie ou fausse est celle qui doit de toute façon assurer, quelle qu'elle soit. Vrai ou faux, la vérité de la proposition composée. Quels que soient les faits du monde, je dirais plus, quel que soit ce que nous en énonçons, la tautologie de la totalité du discours, c'est cela, fait du monde. Prenons la proposition la plus réduite. J'entends grammaticalement. Ce n'est pas pour rien que déjà les stoïciens y avaient pris. Pour l'introduire dans la forme la plus simple de l'implication. Je n'irai même pas jusque-là, je n'en prendrai que le premier membre, puisque comme vous le savez, une implication est une relation entre deux propositions. Il fait jour. C'est bien le minimum. Il au neutre, il fait sa tête, c'est le même sens. Bien Wittgenstein ne soutient le monde que de fait. Nulle chose, si ce n'est soutenir une trame de fait. Une chose au reste inaccessible, seul le fait s'articule. Ce fait, il fasse jour, n'est fait que de ce que ça se soit dit. Le vrai ne dépend, c'est là qu'il me faut réintroduire la dimension qui en sépare arbitrairement, le vrai dépend de mon énonciation. À savoir, si je l'énonce à propos, le vrai n'est pas interne à la proposition ou ne s'annonce que le fait, le factice du langage. C'est vrai que c'est un fait. Un fait se constitue que je le dise. À l'occasion, pendant que c'est vrai. Mais que ce soit vrai n'est pas un fait. N'ajoute pas expressément. Au reste, c'est vrai, et comme le fait remarquer très bien Wittgenstein, justement, c'est superflu que je réagisse, que c'est vrai. Seulement, voilà. Ce que j'ai à dire à la place de ce superflu, c'est qu'il faut que j'ai une raison, vraiment, de le dire, qui va s'expliquer par la suite. Je ne le dis pas que j'ai une raison, je continue la suite, à savoir ma déduction. Et j'intègre, il fait jour, peut-être à titre de fallacie, même si ce serait, à mon incitation, et peut-être d'en profiter pour faire croire à quelqu'un qu'il verra clair sur mes intentions. Bêtise, si je puis m'exprimer ainsi, c'est d'isoler le factice qu'il fait jouer. Celui-ci de ce qui résulte, qu'on pousse jusqu'à ses dernières conséquences, et dont j'ai pris appui moi-même à savoir qu'il n'y a pas de métalangage. Il n'y a pas d'autre métalangage que toutes les formes de la canaillerie. Curieuse opération qui se déduit de ceci que le désir de l'un et le désir de l'autre. Que toute canaillerie repose sur ceci. Devoir de vouloir être l'autre, j'entends le grand autre de quelqu'un. Là où se dessinent les figures, où son désir sera capté. Aussi bien, cette opération Wittgensteinienne n'est-elle en rien qu'une extraordinaire parade d'une détection de la canaillerie philosophique. penses, que tu désires. Voilà ce qu'on peut se dire après avoir lu Wittgenstein. De vérité, de ce qu'il cache, le petit désir de son manque, pour faire mine de rien de ce qu'il trouve. Et si nulle lumière plus certaine n'apparaît, ce qui résulte, que les logiciens puissent toujours à seulement nous éblouir de l'air de paradoxe qu'a ce qu'on a appelé l'implication matérielle. Vous savez ce que c'est. On l'a appelé matériel que récemment, ces implications, du coup, on l'a appelé matériel récemment parce que tout d'un coup on s'est frotté les yeux qu'on commence à comprendre un peu. Mais c'est qu'il y a d'énormité de ce qu'il en est l'implication. Je parle de celle que tel stoïcien a soutenu. C'est à savoir que les justices sont les trois implications, certes, que le faux implique le faux, le vrai implique le vrai. Mais il n'est nullement à écarter que le faux n'implique le vrai. Puisqu'au total, quand il s'agit de ce qui s'applique et de ce qui s'applique est vrai, eh bien, l'ensemble de l'application l'est aussi. Demain, ça veut dire quelque chose. Pour quoi ne pourrions-nous pas décaler légèrement le mot implique, nous apercevoir de la saillance. Ceci qu'on savait très bien au Moyen-Âge, falso, c'est futur, quoi qu'il est bête. Que le faux comporte aussi bien le vrai à l'occasion. Il veut aussi bien dire que le vrai suffit de n'importe quoi. Mais si par contre nous repoussons que le vrai comporte le faux, peut avoir une suite faux, car c'est là ce que nous repoussons, faute de quoi. Il n'y aurait aucune articulation possible de la logique propositionnelle. Nous aboutissons à ce curieux constat que le vrai a donc une généalogie qui remonte toujours. Un premier vrai, où il ne saurait plus déchoir. C'est là une indication aussi étrange, si contestée, notre vie, j'entends de sujet, qu'à soi tout seul, suffirait à mettre en question que la vérité puisse d'aucune façon être isolée comme attribut. Attribut de quoi que ce soit qui puisse s'articuler en savoir. L'opération donc analytique est quelque chose qui se distingue de s'avancer dans ce choc-là, d'une façon distincte de ce que j'appelle incarné. Dans le discours de Wittgenstein, à savoir une férocité si petite, près de laquelle le rasoir de Cam bien connu, s'énonce que nous ne saurions admettre aucune notion logique que nécessaire n'est rien. La vérité nous rebattre au principe. Est certes inséparable des effets de langage pris comme tel. D'une vérité, ne saurait se localiser que du champ où cela s'énonce. Où cela s'énonce comme ça peut. Donc, il est vrai qu'il n'y a pas vrai sans faux. Au moins, dans son principe. Ceci est vrai. Mais qu'il n'y ait pas vrai sans faux, qu'il n'y ait pas faux sans vrai, cela est faux. Je veux dire que le vrai ne se trouve que hors de toute opposition. Dire que la vérité est inséparable des effets du langage pris comme tel, c'est y inclure l'inconscient. Avancer par contre, comme je le rappelais la dernière fois, que l'inconscient est la condition du langage, prend ici son sens de vouloir que du langage un sens absolu répond. Comme l'a inscrit autrefois bien des auteurs de ce discours sur l'inconscient, sous-titré études psychanalytiques, c'est un maître sous une base, d'ailleurs arbitrairement traité au regard de ce que j'en ai fait. Cette superposition d'un S par une part sur lui-même, cette désignation d'un signifiant dont le sens serait absolu. Où s'indique ceci, très facile à reconnaître, car il n'y a qu'un signifiant qui puisse répondre à cette place, c'est le jeu. Le jeu en tant qu'il est transcendantal, mais aussi bien qu'il est illusoire. C'est là l'opération racine, dernière, celle dont s'assure irréductiblement, justement, et effectivement, que ce n'est pas un hasard, que je désigne l'articulation du discours universitaire. Le jeu transcendant. C'est celui que quiconque a énoncé un savoir d'une certaine façon recèle comme vérité le S1, le je maître. Le je identique à lui-même, c'est très précisément ceci dont se constitue le S1. car l'impératif est toujours à la deuxième personne. Mais le mythe du je idéal, du je qui maîtrise, du je par où au moins quelque chose est identique à soi-même, à savoir l'énonciateur, c'est très précisément ce que le discours universitaire ne peut éliminer de la place où se trouve sa vérité. Bien sûr, nul n'y est réductible. Tout énoncé universitaire d'une philosophie quelconque, plus que celle de la rigueur qu'on pourrait épingler comme lui étant la plus opposée, à savoir si c'était de la philosophie du discours Lacan, qui veut irréductiblement sur la géographie.
Coupure milieu de bande.
Pour les philosophes, la question a toujours été beaucoup plus souple et pathétique. Souvenez-vous quoi il s'agit. Tous l'avouent plus ou moins, et certains d'entre eux les plus lucides en clair. Ils veulent sauver la vérité. Ceci a entraîné l'un d'eux, de ma foi, fort loin, pour refuser, comme dit Wittgenstein, d'aboutir à ceci qu'à en fait la règle et le fondement du savoir. Il n'y a plus rien à dire, rien en tout cas qui la concerne comme telle. Pour éviter ce rock. Assurément. L'auteur a ceci de proche de la position de l'analyste, qu'il s'élimine complètement de son livre. J'ai parlé tout à l'heure de psycho. C'est un tel point de concurrence du discours le plus sûr, avec je ne sais quoi, qui s'indique comme psycho, à simplement en ressentir les faits. C'est remarquable, une université, comme l'université anglaise spécialement, elle fait sa place, place en quelque sorte à part, c'est bien le cas de dire, place d'isolement à quoi l'auteur collaborait, si je puis dire, parfaitement lui-même. Il y a de temps en temps se retirant d'une petite maison de campagne pour revenir et poursuivre cet implacable discours dont on peut dire que même celui des Principia Mathematica de Russell s'en trouve contre-trouvé. Il ne pouvait pas sauver la vérité. Rien ne peut s'en dire ce qu'il disait, ce qu'il est pas sûr. Puisqu'aussi bien avec elle, nous avons affaire tous les jours. Mais comment est-ce que Freud définit la position psychotique dans une lettre que j'ai maintes fois citée? Précisément ceci qu'il appelle l'unglauben. Ne rien vouloir savoir du coin où il s'agit de la vérité. Chose étrange. La chose est pour l'universitaire si pathétique qu'on peut dire que le discours de Polybère du fondement de la psychologie concrète, à quoi il a incité l'approche de l'analyse, en est un exemple. Tout ce comment de cette époque pour sortir, il sent bien qu'il y a là le torrent, par contre, du discours universitaire qu'il a formé de pied dans le cap, il devrait émerger. Il faut lire ce petit ouvrage réédité en livre de poche. Donc je sache à la connaissance que rien puisse prouver que l'auteur lui-même eût approuvé cette réédition. Chacun sait le drame qu'a été pour lui l'accrablement des fleurs sous lequel a été couvert ce qui d'abord se pose comme tridrément. Des pages cinglantes sur ce qu'il en est de la psychologie spécialement universitaire, sont étrangement suivies d'une démarche, où certes on peut dire que l'essentiel de ce qu'il avait fait dire, que c'était là, barre, la sortie, espoir pour lui d'émerger de cette psychologie, c'est qu'il a mis accent sur ceci, que personne n'avait fait à son époque, que l'essentiel de la méthode freudienne, pour aborder ce qu'il en est des formations de la conscience, c'est de se fier au risque. L'accent sur ce fait de langage. Toutou, le vrai dire, eut pu partir. Il n'ira pas jusqu'à dire qu'à l'époque, c'est de la petite histoire. Sur l'époque, il n'était pas question du guetteur, du petit calmant, de l'école normale, de la moindre idée de ce qu'est la justice. Mais, tout de même, d'avoir approché que c'est là le ressort qui donne espoir de ce qu'il appelle étrangement psychologie concrète, il est singulier. Il faut lire ce petit livre. S'il le fallait, je le lirai avec vous. J'en ferai un jour ici ma vieille, un autre entretien. Mais j'ai assez de choses à dire pour ne n'avoir pas non plus à m'attarder à quelque chose que chacun d'entre vous peut voir. L'étrangeté significative de ce qui c'est comme, et ceci se suit pas à partir, c'est à vouloir sortir du discours universitaire qu'implacablement on y rentre. Car qu'est-ce qu'il fera comme objection aux énoncés, je parle à la terminologie des mécanismes qu'avance Freud dans son progrès théorique. Sinon, s'énoncer autour de faits isolables, d'abstractions formelles, comme il s'exprime confusément, il laisse échapper ce qui tombe. L'essentiel de l'exigible en matière de psychologie, c'est que tout fait psychique ne soit énonçable qu'à préserver ce qu'il appelle l'acte du jeu, et mieux encore, la continuité et écrivons la continuité du jeune. Bien qui sans doute a permis au rapporteur dont je parlais tout à l'heure, qui introduit cette petite référence à policière, histoire comme ça d'Amel Wills, qui pouvait alors avoir comme auditoire, je peux toujours dire, quand on a de temps en temps un universitaire qui s'est montré par ailleurs un héros, c'est une bonne occasion quand même de le produire. Mais ça ne suffit pas si l'on en profite, au lieu de pouvoir en démontrer l'irréductible des discours universitaires. Par rapport à l'analyse elle-même, dans cette sorte de lutte singulière dont ce livre témoigne, car il ne peut pas ne pas sentir qu'on vient d'en faire la pratique analytique et tout près de ce quelque chose qu'idéalement il dessine comme tout à fait hors du champ de tout ce qui s'est fait jusque-là comme psychologie. Mais sans pouvoir faire autrement que de retomber sur cette exigence du jeune. Non, certes, que moi-même, j'y vois quelque chose qui soit irréductible. Le rapporteur en question s'en débarrasse, en quelque sorte, trop aisément à dire que l'inconscient ne s'articule pas en première personne et s'armer pour cela. De telle et telle de mes énoncés sur le fait que le message du sujet, il le reçoit de l'autre sous sa forme inversée. Ce n'est certes pas la raison suffisante. Ailleurs, j'ai bien dit que la vérité parle « je ». Moi, la vérité, je parle. Seulement, ce qui me vient à l'idée, dit l'auteur en question, comme bien, c'est que le « je » dont il s'agit peut être innombrable. Il n'y a besoin ni de continuité du jeune pour qu'il multiplie ses actes. Mais ce n'est pas là l'essentiel. En face de cet usage des propositions, n'allons-nous pas, avant de nous quitter, présenter ceci. Un enfant est battu. C'est bien une proposition qui fait tout ce fantasme. Pouvons-nous l'accepter de quoi que ce soit qui se désigne du terme de vrai ou de faux? C'est la honte. Dans ce cas exemplaire, de ce qui ne peut être éliminé d'aucune définition de la proposition que cette proposition a effet de quoi? De se souvenir d'un sujet, sans doute. Mais on prend aussitôt l'analyse divisée par la jouissance. Divisé, je veux dire, aussi bien celui qui l'énonce, que cet enfant qui vient vers toi, d'être battu, geschlagen. Mais jouons un peu plus. Cet enfant qui perdit la vie ils abîment vertu.
Soulignailleur du vertu. Celui qui le frappe et qui n'est pas nommé,
de quelque façon que la phrase dénonce,
ce tu me battes,
et cette moitié du sujet, on la formule, fait sa liaison à la jouissance. Il reçoit certes son propre message sous une forme inversée, ça veut dire sa propre jouissance sous la forme de la jouissance de l'autre. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Dans le fantasme se trouve rejointe l'image du père conjointe qui d'abord est un autre en forme. Que le père puisse le battre, qui ici met l'accent du sens, celui aussi de cette vérité à moitié la aussi bien. Celui qui à l'autre moitié au sujet de l'enfant s'identifie n'était pas cet enfant, sauf comme dit preuve. On reconstitue le stade intermédiaire, jamais d'ailleurs, d'aucune façon par le souvenir substantialisé de celui en effet. Qui, de cette phrase, fait le support de son fantasme qui est l'enfantasme. Nous voici en conduit à ceci. Qu'un corps peut être sans figure. Car le père, ou l'autre, quel qu'il soit qui ici joue le rôle, la fonction, donne la place de la jouissance, qui n'est point même nommé. Dieu sans figure, c'est bien le cas. N'est néanmoins pas saisissable, sinon en tant que corps. Qu'est-ce qu'il y a un corps qui n'existe pas? Réponse, le grand homme. Et si nous y croyons à ce grand homme, il a un corps inéliminable de la celui qui a dit « Je suis ce que je suis », ce qui est une toute autre forme de tautologie. C'est en cela, permettez-moi avant de quitter l'avancée. Que l'énoncé ceci qui est tellement éclatant dans l'histoire, à vrai dire, en cet homme, que ceci ne soit pas suffisamment pas suffisamment accentué, même la soit nullement. C'est que le matérialiste, son expérience l'a prouvé, je parle au moment de récentes éruptions historiques au début du siècle, sont les seules croyances authentiques. Leur Dieu est la matière. Ah oui. Pourquoi? Ça se tient mieux que toutes les autres façons de fonder seulement à nous autres. Hein? Ceci ne suffit pas plus. Parce que nous avons justement des besoins logiques. Nous gardons des termes. Parce que nous sommes des êtres nés. Plus de fruits. Résultat de l'emploi du langage. Quand je dis l'emploi du langage, je ne veux pas dire que nous l'employons. C'est nous qui sommes ses employés. Le langage nous emploie. Et c'est par là que ça jouit. C'est pour ça
que la seule chance de l'existence de Dieu, c'est qu'il, avec un grand I, il jouisse. C'est qu'il soit la jouissance. C'est pour ça. C'est plus intelligent que matérialiste. Voir à Sade. Pour lui, il est bien clair que ce qui est la visée de la mort, ça n'est nullement l'inanimé. Lisez les propos de Saint-Fond vers le milieu de Juliette, mais vous verrez ce qu'il s'agit. Il dit que la mort ne constitue rien d'autre que la collaboration invincible à l'opération naturelle. Et bien entendu, après la mort, tout reste pour lui animé. Animé du désir de jouissance. De jouissance de ce qui devient aussi à des natures, donc il est évident à tout le contexte. De la jouissance de quoi? D'un être unique qui n'a qu'à dire je suis ce que je suis, ceci. Pourquoi donc? Comment le sent-il si bien? Là, que sous ceci, qu'en apparence, il est fatigué. C'est qu'il refuse d'être ce qu'il est. Est-ce qu'il est non ce qu'il est? Père, c'est un père furieux, un être donné à la nature, dans son opération meurtrière de toujours renaître les formes. Qu'est-ce qu'il fait? Sinon voir son impuissance à être autre chose que l'instrument de cette jouissance divine. Ça, c'est le sage théoricien. Toi, il est théoricien, j'aurais peut-être le temps, dans la dernière minute, comme je serais habitué, de vous dire. Le praticien, c'est autre chose. Le praticien, comme vous le savez, par un certain nombre d'histoires, aussi bien d'ailleurs, nous avons de sa plume, les démoniaques, le praticien est simplement l'assassiste. Seule position astucieuse et pratique, il s'agit de la puissance. Car s'épuiser à être l'instrument de Dieu, il y a un temps. Le thanatologiste, lui, est un délicat humoriste. Il n'a pas besoin de Dieu pour ça, son laquais lui suffit. Il prend son pied de jouir, dans des limites d'ailleurs sages, naturellement. Comme tout bon masochiste, comme ça se voit, il suffit de délire, il se marre. C'est un maître humoriste. Alors pourquoi ce diable sale est-il théorique, hein? Pourquoi ce souhait épuisant? Car il est tout à fait hors de la portée de sa main, et c'est écrit, désigné comme tel. Ces particules, nous en avons des fragments de vie incerta, déchirés, démembrés, après les actes imaginés les plus extraordinaires. Il faudrait vraiment. Pour en venir à bout, les frapper d'une seconde mort. La portée de qui est-elle? Bien sûr, quelle est à notre portée? Je vais énoncer ça depuis le record. Je propose un petit peu. Je mange sur psychanalyste. De m'apercevoir que la seconde mort, elle est avant la première, et non pas après, comme le rêve. ça les fait aussi. Parce qu'il aime la vérité. C'est pas qu'il veuille la sauver. Il l'aime. Ce qui prouve qu'il l'aime, c'est ça qu'il la refuse. Qu'il n'a pas l'air de s'apercevoir. A décrété mort ce Dieu, il l'exalte. Qu'il témoigne pour lui de ceci, que lui ça n'arrive à la jouissance que par les petits moyens dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que soit d'aimer la vérité quand on tombe ainsi dans un système tellement évidemment symptomatique? Mais c'est ici une chose se dédie. C'est qu'à poser comme résidu de l'espèce humaine. Comme ceci qui fait que tu jouis, l'effet de langage n'arrache que ce que la dernière fois j'énonçais de l'entropie d'un flux de jouir. Est-ce qu'on ne voit pas tout? La vérité est comme en dehors du discours. Mais quoi? C'est la seule que cette jouissance interdit. Je dis c'est la seule. Elle n'est apparente qu'en ceci que si les structures logiques les plus radicales bien effectivement se rattache à ce pellicule à arracher de la jouissance. Inversement, la question se pose de quel jouir est-on ces conquêtes que nous faisons de notre temps dans la logique et qui s'appelle ceci, par exemple, qu'il n'ait de consistance d'un système logique, si faible soit-il, comme on dit, qu'a désigné sa force d'effet d'incomplétude, il se marque sa limite. De cette façon, dans sa vère déhissante, fondement lui-même logique. À quelle jouissance répond-il? Autrement dit, qu'est-ce ici que la vérité? Ce n'est pas vainement ni au hasard que je désigne que ce rapport de sororité, la position de la vérité au regard de la jouissance, à le développer, à l'énoncer dans le discours de l'hystérique, singulièrement, récemment. Une chose que tout le monde savait, a été faire une conférence aux Américains pour dire que Freud avait ce qu'on appelle publiquement. Uniquement une affaire avec sa belle-sœur. Une affaire. Il y a longtemps, on savait la place de Nina Bernet sur les fleurs du pasteur. Appuyez cela de quelques ragots jungiens ne change rien à la peine. Mais cette position de la belle-sœur, est-ce que ce n'est pas pour cela? fait sur cette question. Est-ce que ce n'est pas pour cela que ça, chacun sait combien l'interdit égyptien l'avait, comme le disent depuis toujours les théoriciens de l'amour courtois, il n'y a pas d'amour dans le mariage séparé de sa femme. Est-ce que ce n'est pas à cause de sa belle-sœur que ça, elle est tant la vérité.